Alors, donc, je vais vous apporter un message ce matin, donc, sur le livre de Daniel. C'est un peu dans la continuité, donc, de mes prédications. Est-ce un hasard? Nous avons Daniel au milieu de nous. Pour introduire notre message, donc, ce matin, je dirais que notre foi peut être mise à l'épreuve de diverses manières et dans des circonstances variées, mais comment la défendre? Comment défendre notre foi en ces temps tumultueux? Comment être chrétien sous un régime totalitaire qui plus est en guerre contre l'Occident? Vous voyez, les sujets sont variés. C'est l'actualité qui nous rappelle le conflit en Iran, avec le risque que les chrétiens deviennent des boucs émissaires. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand les circonstances changent, les rapports entre les hommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça peut être les origines, ça peut être la profession, et en général, la religion. L'index mondial de la persécution des chrétiens 2026 est publié. Vous l'avez sans doute vu. Porte ouverte. L'Iran, en tant qu'État islamique, est au 10e rang des pays qui persécutent les chrétiens. Le calendrier de prière de porte ouverte est dédié à l'Iran. Ces deux derniers jours, comme par hasard, hier, 16 mai, voilà le sujet de prière. Prions pour les chrétiens détenus en prison et en particulier à la prison d'Evin. Un État totalitaire, islamique. De nombreux frères et sœurs sont emprisonnés en Iran. C'est pas tout. Le sujet de prière aujourd'hui, je vous le lis, prions pour les prisonniers, ou du moins que les prisonniers ne soient jamais utilisés comme bouclier humain. Nous ne sommes pas dans la fiction. Vous en êtes informés, vous le savez. Quand il s'est agi, donc, de détruire, de déstabiliser des ouvrages stratégiques de ce pays, on en a entendu parler. La stratégie de faire des boucliers humains. Mais nous ne sommes pas dupes. Qui seraient ces boucliers humains? En général, on commence par les prisonniers. Là, on a une cible qui est toute trouvée. Des chrétiens, probablement, emprisonnés. Et vous voyez, porte ouverte a soin de souligner jamais. Ce qui veut dire que l'intention y était. Et nous l'avons effleuré à travers les médias. Cela veut dire également que la possibilité aujourd'hui n'est toujours pas exclue. Prions pour que les prisonniers ne soient jamais utilisés comme boucliers humains. L'épreuve est-elle une option de la vie chrétienne? Quand on demande aux uns et aux autres de se convertir, il y a aussi des avertissements. Vous serez certainement éprouvés. C'est pas une option. Il y a des devoirs. Oui, mais l'épreuve n'est pas une option. C'est même l'école du Seigneur. Comment connaître notre Dieu si nous ne sommes pas éprouvés? Comment être un enfant légitime sans être corrigé? L'épreuve n'est pas une option. C'est même l'école du Seigneur. J'ai tiré un texte de la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 13, qui dit ceci. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le livre de Daniel décrit des pressions subies par de jeunes juifs déportés à Babylone dans le but de faire quoi? Corrompre leur foi. Chapitre 1, que nous avons étudié déjà, il y a l'une des pressions que nous avons vues. C'est la compromission par des habitudes culinaires étrangères à la loi de Dieu. Daniel et ses compagnons ont dit non. Les mets du roi, n'en voulons pas. Et vous connaissez la suite. Dieu agit avec puissance pour leur donner de ne pas prendre part à cette corruption. Première pression que nous avons vue. Deuxième pression, je dirais c'est une pression de divination ou divinatoire pour révéler et expliquer les songes du roi. Ça va quand même un peu plus loin. Connaître le songe d'un individu lambda et en donner l'explication. Pour le coup, il s'agissait du roi, de l'homme le plus puissant de la planète, le roi de Babylone. D'énormes pressions. Et ce matin, nous regarderons comment Dieu est intervenu à nouveau pour trois compagnons de Daniel en réponse justement à leur fidélité. Et alors, voilà comment j'ai intitulé mon message ce matin. La foi à l'épreuve du feu. Au premier comme au second degré. La foi à l'épreuve du feu. Tout commence par un ordre, une ordonnance donnée par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, que nous commencerons par lire donc dans Daniel 3, les versets 1 à 7. Sinon, j'ai la projection, hein, je peux projeter. Hein. Attends, c'est le plus simple. Hein. Alors, je lis. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'il se rende à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Le héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez, et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent, la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, je vais peut-être projeter ma présentation. Alors, donc il s'agit ici donc d'un ordre du roi, ordonnance du roi. Une statue d'or, il est question ici d'une statue d'or. En fait, le terme hébreu qui est utilisé, c'est tselem, qui veut dire littéralement image, contour. Le même mot est utilisé dans la Genèse. Tselem Elohim, donc s'agissant du fait que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc le même terme est utilisé ici, donc qui nous rappelle tout simplement que nous avons une statue de forme humaine. Elle semble donc indiquer la puissance du peuple babylonien, personnifié par son roi. Une statue humaine, une statue d'or. Une sorte, je dirais, d'autodéification par la fabrication d'une statue à son effigie. Le roi, sa statue. J'ai noté que la succession des chapitres dans le texte inspiré laisse à penser que la révélation des songes du roi précède la réalisation de la statue d'or. Pourtant, Daniel avait révélé au roi qu'il était la tête d'or de la statue dont il avait rêvé et que son royaume serait éphémère. Souvenons-nous, chapitre 2, cette statue dont le roi avait rêvé, un matériau composite, la tête d'or, c'était bien le roi. En contraste avec la statue au matériau composite, Nebuchadnezzar a fait ériger une statue en or, probablement en feuille d'or. Ce n'était donc pas une statue en or massif. Là encore, ce sont des hypothèses. Comme pour défier Dieu, à la fois par sa qualité, une statue revêtue de feuilles d'or, l'or étant un métal noble, et son envergure, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Dans notre système métrique, ça équivaut à peu près à 30 sur 3 mètres. Vous aurez observé que la hauteur est 10 fois la largeur. Ça paraît quand même disproportionné. Si l'on veut tenir compte du nombre d'or, le nombre d'or qui est donc le reflet de la beauté de la nature qui a été modélisée. La hauteur ici est 10 fois la largeur, alors que dans la norme, c'est environ 3 fois pour un homme peu corpulent. Alors, je me suis amusé à faire mes mensurations. Je fais 1m76, largeur d'épaule 47. Donc, vous voyez, ça fait 3,7. Je suis un peu au-delà de la moyenne. Alors, question, pourquoi est-ce que ce rapport est aussi disproportionné? Vraisemblablement, la hauteur indiquée, elle tient compte du socle sur lequel posait la statue. Mais, quoi qu'il en soit, l'idée était de faire de l'inauguration de la statue une cérémonie grandiose à la gloire de l'empereur. Mais, dans quel but? Quel était le dessein planifié par le roi? Probablement, unir toutes les populations de l'Empire babylonien au moyen d'un culte commun à sa gloire et aussi pour les dieux babyloniens qui étaient vénérés en son temps. L'annonce de la cérémonie est sans équivoque. L'usage d'instruments aux sonorités diverses. La guitare, la trompette, la cornemuse, le psaltérion, chalumeau, sambuc, et j'en passe. Tout pour que personne ne puisse échapper à l'annonce, à l'invitation à se prosterner devant la statue d'or. En réponse à l'annonce, verset 5, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. À défaut d'obéir, il y a des conséquences. Verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adora pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. J'ai noté que l'ordonnance, elle va de pair avec le triptyque contrevenance, délation, sanction. On le sait tous, il est interdit d'interdire. Il y a parfois de nombreuses contrevenances suite à des ordonnances. Et j'aborde donc le deuxième point, c'est donc la délation, l'accusation, qui nous est rapportée en Daniel 3, des versets 8 à 12, que nous pouvons lire, Daniel 3, 8 à 12. ça sera néanmoins projeté. Daniel 3, 8 à 12. Nous allons pas mal lire notre Bible ce matin de façon séquentielle. C'est la parole de Dieu. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, j'aime bien ces petits mots dans la Bible, mais et or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La délation, les accusations. J'ai noté trois hauts fonctionnaires juifs sont accusés par les Chaldéens. Qui sont-ils? Verset 12. Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, ici, n'est pas concerné. Mais je ne spéculerai pas sur les motifs, car l'Écriture n'en dit rien. On peut s'interroger. Ils sont trois compagnons. Où était Daniel? Mais l'Écriture ne dit pas un mot sur la question. En revanche, on a une certitude, c'est que Daniel avait la même position spirituelle que ses compagnons. On ne peut pas le comprendre que Daniel soit opposé au choix de ses compagnons. Plusieurs raisons dans l'Écriture. J'en citerai simplement une. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne peut être plus explicite. Tu ne feras point d'image taillée. Je suis votre Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Comment se prosterner devant une statue d'or? Pourquoi cette dénonciation des Chaldéens? On l'a vu, l'argument qui a été mis en avant. Ces étrangers à qui tu as donné l'intendance de Babylone. Nous en parlions tout à l'heure. Situation de crise. On va chercher des boucs émissaires. Oui, ils sont juifs. Ces étrangers. À qui tu as donné l'intendance de Babylone. Pourtant, ce sont des milliers de juifs qui avaient été déportés à Babylone. Pourquoi stigmatiser trois juifs? La première raison, on l'a vu, du haut fonctionnaire. La deuxième, on l'a vu au chapitre premier. Dieu leur a donné l'intelligence pour surclasser la sagesse de toute la jeunesse en Babylonie. Bien sûr, ça ne fait pas toujours des heureux. On va là poindre ce sentiment de jalousie. Souvenons-nous, par ailleurs, que Daniel et ses compagnons ont sauvé ces mêmes Chaldéens de la décapitation en donnant au roi l'explication de ses songes. Qu'est-ce que le roi avait donné comme ordonnance? S'agissant de tous les sages, puisqu'il n'avait pas eu l'explication de son songe. C'est alors grâce à Daniel et ses compagnons que les Chaldéens, les sages de tout le royaume, ont eu la vie sauve. Et on voit ici le retour d'ascenseur, l'accusation, la délation. Pourtant, nous avons vu à quel point Daniel était altruiste. Il n'a pas recherché son propre intérêt. Dites au roi de ne pas mettre à mort les sages de Babylone. Il n'a pas regardé son propre avantage dès le départ. Il a pensé à la vie de tous ces sages en Babylonie. La jalousie, justement, la principale motivation dénuée de toute compassion. Alors, intervient la confrontation avec le roi. Vous êtes accusé, mais il va falloir en répondre devant le roi. Trois juifs confrontés au roi. Daniel 3, les versets 13 à 18, que je lirai également dans la projection. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est quand même des réponses avec un aplomb, je dirais déconcertant devant le roi, l'homme le plus puissant de la planète. Dans cette confrontation, j'ai noté que la réponse des trois juifs, elle est directe et claire. Réponse majestueuse. Ce n'est pas comme les Chaldéens quand ils sont devant le roi. Toujours la même rhétorique. Ô roi, vis éternellement. Non. Ici, ils ont été clairs. Des réponses franches, directes et claires. Ils ne doutent pas que Dieu les délivrera de la main du roi d'une façon ou d'une autre, peut-être en le faisant changer d'avis. C'est une option. Mais l'important, c'est que ils n'ont pas douté de leur certitude. Ils ne doutent pas non plus de la puissance de Dieu pour les délivrer du feu, si telle est sa volonté. Oui, Dieu est souverain. Ils connaissent leur Dieu. Ils ont confiance en leur Seigneur. Mais, dans le cas contraire, car Dieu ne délivre pas les croyants toujours, ni même habituellement, de façon miraculeuse, ils sont néanmoins résolus à obéir à Dieu plutôt qu'au roi, même au prix d'une mort abominable. Quelle preuve de foi! Pierre nous le rappelle. Soyez prêts à vous défendre de quiconque demande la raison de l'espérance qui est en vous, mais avec respect et douceur. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas proféré des invectives au roi. Non. Respect, douceur, rectitude, clarté. Voilà la marche sur le sentier de la justice. Écoutez la parole de Dieu, la mettre en pratique. Marc 8:38 nous dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà, la parole de Dieu est claire. Au jour dernier, chacun répondra de ses actes. Ceux qui auraient eu honte du Seigneur, le Seigneur le dit clairement, moi aussi j'aurai honte de vous. Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient la parole. Ils étaient confiants, conscients de la puissance et de la fidélité de leur Dieu. Accusés, nous attendons donc la sanction proférée par le roi, Daniel 3, 19, 23. Cherchez pas, donc la lecture est projetée. Sur quoi? Devant le calme, la tranquillité, la clarté des propos de nos trois juifs, quelle était la réaction de Nebuchadnezzar, le roi? Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur? Et il changeait de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Les enfants, ça fait un peu froid dans le dos, n'est-ce pas, comme histoire? On les a jetés dans la fournaise ardente. Vous connaissez la suite, j'imagine. Oui, ça c'est rugissant. Voilà la puissance de Dieu à l'œuvre. Sanction du roi. J'ai noté que face à la sévérité, du moins la sérénité, des 3 juifs, le roi s'emportant et voulut accélérer leur mort en chauffant davantage la fournaise. Il est dit ici 7 fois. Donc en fait, c'est une image. Donc 7, c'est le chiffre de la complétude. Une image pour donner à quel point le four avait été chauffé de manière extraordinaire. Conséquence, nous avons la mort de 3 vaillants soldats qui donna la preuve en fait de la puissance mortelle de cette fournaise. Dans cette précipitation, les Hébreux furent attachés par leurs propres vêtements. On s'imagine que pour jeter des hommes dans la fournaise, la moindre des choses, c'est quand même de les débarrasser de leurs vêtements. Si c'est pour accélérer leur mort. Mais non, dans la colère, dans la précipitation du roi, ben, ils ont été attachés par leurs vêtements et jetés dans la fournaise. Proverbe 14, verset 17 nous dit ceci. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Le roi, colérique, finalement, son action s'est retournée contre lui-même. Véritable sottise. Pourquoi? Il a perdu 2 alliés et 2 hommes. 3 hommes. N'est-ce pas? Et on le verra. En attachant donc les 3 juifs avec leurs vêtements, Dieu s'en est servi pour démontrer sa puissance et nous le verrons. Alors, les enfants, on va voir ensemble ce qu'il est advenu des 3 compagnons de Daniel. C'est donc la délivrance. Délivrance. Daniel 3, les versets 24 et 28. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi. Certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et délivré leur corps, pardon, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » La délivrance, puissance de Dieu. Une délivrance dans une stupeur généralisée. Par sa colère, le roi a permis à Dieu de démontrer à nouveau sa puissance. Les captifs liés furent déliés. La flamme ne consuma que leurs liens. Jetés des hommes, attachés par leurs vêtements, qui finalement ne se sont pas consumés. Seuls les liens, puissance de Dieu, contre le colérique qui a pris une décision insensée. Quatre êtres libres marchant dans les flammes. Seul le roi avait compris que le quatrième était un être surnaturel. Un fils des dieux. Mais pour nous, c'est un envoyé de Dieu. Le Dieu que nous adorons, venu secourir les siens. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu, le roi reconnut la puissance de leur Dieu. Mais l'avait-il vraiment compris? Nous le verrons par la suite. Nous avons vu déjà au chapitre 2 qu'il a reconnu la puissance de leur Dieu. Mais s'est-il appliqué à l'adorer? On voit bien que non. Et est-ce qu'il continuera à adorer le Seigneur? Certainement pas, mais nous le verrons par la suite. Pour terminer, j'ai noté une chose, du moins plusieurs choses. Donc en premier, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux consacre tout un chapitre, chapitre 11, je vous exhorte d'ailleurs à le lire, sur les témoins de la foi afin de forger notre résilience dans l'adversité. Ces témoins de la foi, ces colonnes de la foi, depuis Abraham. J'ai noté également que nous pouvons louer Dieu pour la fidélité sans faille des héros de la foi de tous les siècles qui ont préféré le martyre au reniement. Ces colonnes, ces témoins qui aujourd'hui nous encouragent. Aujourd'hui encore, des millions de chrétiens sont persécutés. Des milliers perdent la vie pour Christ. Ce sont des témoins. Bénissons Dieu pour ces témoins. Et bénissons Dieu pour ces témoins à venir. Nous vivons des temps dangereux. Tout comme les trois amis de Daniel, comptons sur les promesses des dieux qui jamais ne feront défaut. Et j'aimerais terminer avec un verset que vous connaissez tous. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous, pardon, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.